Le projet Terre Fertile existe depuis 2014 sur l'île d'Yeu. L'objectif initié en 2015, c'est la mise en valeur du potentiel agricole par la reconquête des friches. En 3 ans d'existence, comment avance le projet? Quelles sont les actions en cours et en venir? On en parle avec Georges Bureau. Bonjour.
Bonjour Roland.
Tu es le président du collectif agricole.
Oui.
Mounia Tonazini, bonjour.
Bonjour.
Tu es la nouvelle chargée de mission Terre Fertile.
C'est ça.
Michel Charreau, bonjour.
Salut Roland.
Adjoint à la mairie de l'Île-d'Yeu.
Toujours.
Et au développement à la mairie de l'Île-d'Yeu.
Et au développement économique, à ce titre-là, co-responsable du projet Terre Fertile, avec Georges et avec Luc.
Georges, Michel et Mounia, où en est le projet Terre Fertile en 2018?
Alors, ce qu'on peut peut-être
Michel.
Dire, c'est que nous sommes passés donc par plusieurs phases. La première phase, donc, ça a été, je le rappelle, le contact qui a été pris avec un maximum de propriétaires de terrain pour leur faire savoir qu'il y avait une possibilité de les mettre à la disposition des agriculteurs.
Ce travail est finalisé?
Il n'est pas terminé et il ne sera jamais terminé tellement il y a des petits bouts de terrain un peu partout parce qu'en fait, comme tu le sais, les terrains sous Dieu sont très morcelés, c'est tout petit et souvent ne sont toujours pas sortis de leur indivision suite à des héritages. Donc ce travail-là continue, mais ce qui était intéressant, c'est que nous avons eu des retours très positifs de la part de nombreux propriétaires et donc nous avons travaillé sur deux principales zones, on va revenir après dessus, sur lesquelles nous essayons de mettre en place les moyens pour pouvoir développer l'agriculture.
Quelle zone, Georges?
Alors, les deux zones, c'est la première, c'est la zone qu'on appelle la zone des vieilles. En fait, c'est situé entre le Marais Salé et la Croix, le long de la piste cyclable. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on a commencé à défricher. On a 6000 m² là qui sont en cours de défrichage. On va même, pour une partie, pouvoir dessoucher très rapidement au mois de mai, semer un engrais vert pour que le sol recommence à être, disons, travaillé et puis reprenne vie. Et puis cet engrais vert, il sera enfoui à l'automne. On en ressemera un autre. Et puis, en même temps, on va continuer à dessoucher les autres parcelles. Et puis, on va en même temps continuer à discuter avec les propriétaires fonciers des parcelles qui sont juste à côté pour les convaincre de louer ces parcelles-là pour pouvoir s'étendre. Pour, disons, l'objectif recherché, c'est à terme d'avoir à 2 hectares d'un seul tenant. Quoi.
Pour des nouveaux porteurs de projets?
Oui, là, ça serait pour l'installation d'un porteur de projet. Alors, ce n'est pas défini encore quoi. Hein. Est-ce que ça sera du maraîchage? Est-ce que ça sera des arbres fruitiers? Bon, le résultat de l'offre, du diagnostic qu'on a fait sur l'offre et la demande sur l'Île-d'Yeu a bien montré que bon, il y avait un déficit de production important, même en ce qui concerne les légumes, mais aussi les fruits. Et si on voulait qu'en circuit court, la restauration collective, que ce soit pour les cantines scolaires ou pour l'EHPAD et l'hôpital, puisse s'approvisionner sur l'Île-d'Yeu, il faut augmenter cette production de légumes. Quoi.
Ça va être possible dans les années à venir?
Oui, c'est bien pour ça qu'on œuvre, hein, c'est pour que ça soit possible. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème assez important. Hein. Problème, par exemple, d'approvisionnement en eau pour arroser, de problème d'ajustement de quantité, parce que c'est pas du tout la même chose de produire pour le marché essentiellement l'été et pour produire pour la restauration collective. Donc pour ça, on va œuvrer en faisant des journées de formation, des journées d'études avec les différents partenaires, que ce soit donc les producteurs et donc la restauration collective.
Tu nous as parlé de la zone des vieilles, l'autre zone?
Alors l'autre zone, c'était la zone des perdrettes qu'on avait sélectionnée, qui elle serait plus pour faire du pâturage. Mais pour l'instant, on est surtout sur la zone des vieilles.
Michel?
Oui, il y a aussi une troisième, en fait, petite zone, mais ça c'est lié à l'opportunité, c'est vers Kerpissot, quoi. Où là, effectivement, on a des terrains qui sont effectivement vendus ou loués et qui permet d'agrandir en fait les zones de production.
Mounia, tu es la nouvelle chargée de mission Terre Fertile. Quel est ton rôle?
Alors là, mon rôle, ça sera de favoriser le développement de l'agriculture locale et durable. Donc favoriser justement le développement pour les agriculteurs qui sont déjà en place et pour l'installation de nouveaux porteurs de projets. Et donc là, un des travaux essentiels, ça sera de trouver des parcelles, donc contacter les propriétaires, essayer d'aller discuter avec eux pour voir s'ils voudraient mettre à disposition ces terres. Et ensuite, essayer de constituer des îlots pour justement favoriser le défrichage et l'installation des agriculteurs.
Comme le disait Georges à l'instant, tu connaissais déjà le territoire un petit peu de l'île-Dieu ?
Non, à vrai dire,
parce que ça doit être pas simple, c'est pour ça que je te pose la question.
Non, je connaissais même pas l'île-Dieu il y a un mois. Donc j'ai vu l'offre de poste, ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est très polyvalent, donc ça va vraiment du champ à l'assiette. Et donc je me suis renseignée et c'est vraiment un territoire où les enjeux sont très, très développés justement du fait de la limite de la taille du territoire, donc c'est très intéressant.
Georges, ces porteurs de projets qui vous demandent des terres, ils sont nombreux ?
Alors, ça dépend si on parle des gens de l'île-Dieu ou extérieurs à l'île-Dieu.
Explique-nous.
Ah ben, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne vivent pas sur l'île-Dieu aujourd'hui, mais qui se sont intéressées pour s'installer sur l'île-Dieu.
Venir travailler sur l'île-Dieu.
Venir travailler et s'installer sur l'île-Dieu. Voilà.
Pour quel type de projet ?
Oh ben pour tout type de projet. Hein. Là, on a des gens qui sont pour faire du maraîchage, de l'élevage, de la vigne, des arbres fruitiers, des choses multiples. Bon, c'est très varié. Bon, nous, ce qu'on préférerait, évidemment, c'est que ce soit des gens de l'île-Dieu qui se proposent. Alors, y en a quelques-uns hein, qui sont intéressés.
Pour quel type de projet ?
Pour maraîchage, fruitier, ça tourne autour de ça. On aimerait bien aussi qu'il y ait une installation de chèvres, puisque maintenant que Claudine est partie, ça nous manque un peu sur l'île-Dieu quand même. Donc, il faudrait pouvoir la remplacer. C'est pas évident, mais on espère pouvoir y arriver aussi, quoi. Hein. Donc, il y aura pas de problème pour avoir des porteurs de projets. Donc, parce qu'on avait toujours ce questionnement qui était, mais si vous défrichez puis qu'il n'y a personne derrière...
C'est pour ça que je vous pose la question.
Hein, est-ce que ça va être de l'argent foutu en l'air ? Non, ça ne sera pas de l'argent foutu en l'air. Il y aura des porteurs de projets. Je ne dis pas qu'ils vont s'installer aussitôt, hein, il faudra du temps. D'ailleurs, on ne va pas non plus leur laisser des terrains qui seront inutilisables. Il faut que...
Il faut vraiment qu'il y ait un projet derrière.
Bah oui, puis qu'ils puissent produire et gagner leur vie. Donc... Voilà, il vaut mieux prendre son temps et faire les choses bien.
Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en cours.
Tout à fait, beaucoup, beaucoup de paramètres, parce qu'il y a le logement, il y a la superficie des terres, il y a l'eau, il y a qu'est-ce qu'on produit, où est-ce qu'on vend, quelle quantité, etc. Oui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on va sélectionner un porteur de projet.
Pour toutes ces activités, les terres de l'île-Dieu sont-elles fertiles ?
On sait très bien que sur l'île-Dieu, il y a beaucoup de terres qui étaient fertiles, qui sont malheureusement parties à la construction hein, pour les résidences secondaires. Cependant, cette partie-là de l'île-là, hein, qui est donc le long de la piste cyclable après la route du Marais Salé en allant vers la Croix, eh bien, ce sont quand même des bonnes terres. À la fois des terres sèches, à la fois des terres humides, puisqu'il y a des hauts et des bas. Mais on sait qu'il y a profondes terres. On voit qu'il y a eu des fossés qui ont été faits, donc il y a des bons drainages qui avaient été faits par nos anciens. Il faut reprendre tout ça, mais en plus, ça fera une certaine unité avec la ferme qu'il y avait avant où était Claudine, hein, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Il y a Rémi et Aurélie qui sont pas loin aussi. Donc tout ça, ça peut faire une unité agricole sur l'île-Dieu qui est quand même assez intéressante.
Michel.
Oui, tout à l'heure, Georges a cité dans les projets possibles un projet vigne. Et effectivement, là, ça fera plaisir certainement à beaucoup.
Je croyais que le vin n'était pas bon sur l'île-Dieu.
Ben non, le vin n'était pas bon. Moi, j'en ai bu dans les derniers vins qui étaient produits. Oh, il était un peu râpeux, quoi.
Mais, alors, pourquoi ce projet de vigne ?
Mais parce que, comme partout, tout dépend de... D'une part du cépage, et puis après la manière dont tu élèves ton vin, quoi.
Georges, un avis sur ce vin de l'île-Dieu ?
Ah ben, Parce que... Non, mais aujourd'hui, il y en a encore qui produisent du vin sur l'île-Dieu.
Oui.
Moi, j'en ai bu une fois, je l'ai trouvé bon.
Bah, voilà. Ah.
Et puis ensuite, le vigneron qui veut s'installer, eh bien, il va pas faire n'importe quoi, il va prendre des cépages intéressants pour l'île-Dieu. Mmh. D'ailleurs, il faudra qu'il les teste, les différents cépages. C'est pour ça que là aussi, c'est un projet qui va demander du temps. Mais ce qui est bien dans ce projet, c'est que eh bien, ce sont des vignerons qui sont aujourd'hui en Champagne, qui connaissent l'île-Dieu depuis plus de 40 ans.
Connaissent déjà le métier.
C'est leur métier. Donc on peut leur faire confiance. Et ils ne demanderaient pas mieux, eux, de trouver une personne sur l'île-Dieu à former pour devenir vigneron. Bah, c'est pas beau, ça.
Mm-hmm.
Hein, je veux dire, c'est quand même intéressant pour l'île.
Plutôt du rouge, du blanc ou du rosé?
Ils vont le dire, justement. Mm-hmm. Ils vont le dire, on ne sait pas pour l'instant.
Voilà. Il faut qu'ils testent les cépages. Mmh. Donc, il faut déjà qu'ils trouvent des terrains, qu'ils les défrichent, qu'ils les mettent en culture. À mon avis, les premières bouteilles qu'on boira, il faut attendre quelques années.
Michel.
Oui, non, ça, simplement, c'est comme tout ce qui est agricole, c'est un travail sur le long terme. Et on sait très bien que terre fertile ne travaille pas aujourd'hui donc demain, c'est un travail très très long. Alors, en plus, des fruitiers ou une vigne, c'est très très long, quoi. Mais là, on travaille pour l'avenir. Et des projets vignes, c'est le troisième projet qu'on nous présente. Et celui-là, effectivement, il tient la route, quoi. Et donc, on est tout à fait prêts à les aider. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons, hein. On les aide pour que ça puisse voir le jour. Parce que, comme disait Georges, tout est réuni pour que ça puisse marcher. Donc, on y va.
Georges, comment savoir si un projet est viable dans le temps ?
On ne peut jamais être sûr qu'un projet soit viable dans le temps. Y a plusieurs conditions. Il y a d'une part, au départ, il faut que la personne soit formée.
Qu'elle connaisse le métier, c'est mieux, à première vue.
Voilà, connaisse le métier, oui, c'est quand même mieux.
Mmh.
Deuxièmement, il faut que... il y ait quand même une assurance financière, une solidité financière au départ, hein, parce que en agriculture, avant de produire et de le retour, il peut être assez long. Je dirais que ça dépend aussi du porteur de projet. Si il est convaincu, s'il n'a pas peur de mettre la main à la tâche. C'est quelque chose de prenant, mais on voit bien...
Faut pas compter ses heures.
Faut pas compter ses heures. Mais on voit bien les jeunes qui se sont installés. Regardons un petit peu. Rémi et Aurélie, en maraîchage. Il y en a beaucoup qui, au début, n'y ont pas trop cru, hein, qui se disaient, mais ouais, bon, ils se lancent, ils ont un tout petit truc au départ, et finalement, ça marche très bien. Regardons les petites Bertoux.
Ils en vivent.
Ils en vivent, mmh. Ils en vivent.
C'est le plus important.
Ah, oui, tout à fait. Ils en vivent, et c'est un couple avec deux enfants, et ils en vivent.
Mmh.
Les petites Bertoun, Julien et Béné, ils s'installent, ils sont progressivement, le nombre de vaches augmente, ils sont affrontés à des problèmes qui résolvent au fur et à mesure que ça avance, et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et puis, on peut dire que pour Lionel qui va s'installer pour les poulets fermiers, c'est pareil. Tout le monde a le droit d'avoir des doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? De toute façon, à l'île-Dieu, vous savez, c'est comme ça. Hein. Quelqu'un qui s'installe dans une nouvelle production, dans un nouvel artisanat, tout le monde se dit, on va regarder s'il y arrive, et puis s'il y arrive, on fera pareil.
Il n'y a pas qu'à l'île-Dieu que ça se passe comme ça.
Non, il n'y a pas qu'à l'île-Dieu, mais je suis bien d'accord. Mais comme nous, on est un petit territoire où tout le monde se connaît, c'est quelque chose qui est plus fort, quoi. Voilà, donc moi j'ai confiance dans les jeunes qui s'installent parce qu'ils en veulent, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils sont formés, ou quand ils n'ont pas les formations suffisantes, ils savent où trouver les formations, y compris nous, on les aide à les trouver, ces formations-là. Voilà, il faut faire confiance aux jeunes et les soutenir au lieu de les dénigrer parfois.
Comment sont suivis ces porteurs de projets, Georges ou Michel ou Mounia ?
Ils sont suivis, par... Ça dépend, parce que c'est compliqué, la question que tu poses, Roland, est compliquée. Tout dépend comment on s'installe.
Mmh.
Si on s'installe, d'une manière un peu classique, avec la dotation jeune agriculteur, automatiquement, là, cette dotation jeune agriculteur, elle est contrôlée par la Chambre d'agriculture. Et il faut que le projet qu'on a fait au départ, il faut qu'il soit respecté dans le temps. S'il n'est pas respecté, le porteur de projet peut être obligé de rembourser cette dotation jeune agriculteur. Donc, il n'a pas intérêt à échouer. Après, il y en a d'autres qui n'utilisent pas cette possibilité-là.
Cette dotation, oui.
Cette dotation, eh bien, comment les suivre ? Eh bien, nous, on a au sein du collectif agricole, par exemple, on a des discussions ensemble pour voir un peu quels sont les problèmes auxquels ils sont affrontés, comment on peut les résoudre, comment on peut les aider. Voilà. Disons que c'est collectif et c'est individuel. Bah, je dirais qu'il y a aussi la banque qui, quelque part, oblige à... qui contrôle. C'est un contrôle qui n'est pas forcément très intéressant, mais il y a la MSA, il y a la Chambre d'agriculture. Il y a quand même plein de structures qui permettent de contrôler. Bon, Lionel, par exemple, c'est la coopérative d'installation d'agriculture paysanne qui l'a suivi au départ pour voir si son projet tenait la route.
Vous êtes parmi les 418 projets présélectionnés dans le cadre de l'appel à projets d'initiative citoyenne Mon projet pour la planète lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Qu'est-ce que Mon projet pour la planète, Mounia ?
Alors, c'est un appel à projets qui a été lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, et ensuite l'AFB, donc c'est l'Agence française pour la biodiversité. Et donc, c'est un appel à projet pour lequel les citoyens peuvent voter pour différents projets qui touchent à des thématiques soit liées à la biodiversité, soit à l'économie circulaire ou soit au domaine de l'énergie.
Vous êtes dans la biodiversité, non ?
Oui, dans la biodiversité et on recoupe aussi d'autres thématiques.
Circuit court ?
Circuit court, oui, grâce au développement de la filière circuit court sur l'île. Mais aussi, on peut toucher à l'énergie, par exemple, en limitant les transports maritimes d'approvisionnement sur l'île. Et donc, cet appel à projet a été lancé en novembre. Plus de 1200 projets ont été... Il y a eu plus de 1200 candidatures. Et parmi ceux-là, nous, on fait partie des 418 projets présélectionnés. Et on en appelle aujourd'hui aux gens à voter pour ce projet-là.
Que vous apporte cette présélection ?
Alors, cette présélection permet justement l'accès au vote des citoyens.
Et les votes des citoyens, alors, Mounia ?
Eh bien, c'est là qu'on sollicite tout le monde, tous les participants et tous les habitants de l'île à voter pour ce projet.
Pourquoi voter ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un vote citoyen. Et au plus, il y aura de votes et plus on aura de chances d'être sélectionné pour ce projet, pour cet appel à projet.
Michel ?
Oui, c'est parce que... le projet Terre Fertile, depuis le point de départ, c'est un projet qui est cofinancé.
Il y a plusieurs acteurs dans ce projet Terre Fertile.
Voilà, c'est ça. Donc, on a eu accès à des financements. Il y a le financement des associations qui participent, que ce soit Collectif Agricole, que ce soit Yodoma, de la mairie, bien évidemment, de l'Union européenne, nous avons déjà utilisé les fonds donc leader, mais aussi d'autres fonds. Pour pouvoir vivre, on a besoin effectivement d'avoir accès à des fonds complémentaires de ceux que je viens de citer. Et donc là, il y aurait cette possibilité, en plus de la Fondation de France qui nous a déjà financé, qui est en cours donc du financement, on a besoin de ça pour payer le poste de Mounia et puis l'ensemble des moyens financiers dont on a besoin, par exemple pour faire l'animation, par exemple pour faire du défrichage. Voilà. C'est ça dont on a besoin. Et donc, ce qui est important, ce serait que les gens d'Île-Dieu
se mobilisent,
ou les résidents secondaires, ou toutes les personnes que nous pouvons connaître, qui aiment l'Île-Dieu, puissent se mobiliser pour voter pour notre projet. Et ça, nous allons vous le dire comment.
Mounia, les lauréats seront connus quand ?
Alors normalement, à partir du mois de juin, on aura les réponses.
Et ça vous apporte quoi ? Une aide financière ?
Oui, alors si on est sélectionné, on peut avoir une aide qui va de 20 000 euros à 100 000 euros, sachant que cela dépendra aussi du nombre de projets sélectionnés.
De 20 à 100 000 euros ?
De 20 000 à 100 000 euros.
Sachant que nous avons demandé un peu moins de 20 000 euros dans notre budget qu'on a présenté. Voilà, et ces 20 000 euros, ils seraient surtout consacrés au défrichage.
Exclusivement au défrichage.
Pas exclusivement, mais essentiellement au défrichage pour remettre les terres en valeur.
Comment voter, Mounia ?
Alors là, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site monprojetpourlaplanète.gouv.fr Et à partir de ce site, il y a une plateforme où on peut retrouver les projets et il suffit de taper...
Il y a un petit moteur de recherche, vous tapez Tarif Fertile dedans, puis voilà.
C'est ça.
Voilà.
C'est,
les votes sont verts jusqu'au 11 mai, c'est bien ça.
Voilà, jusqu'au 11 mai. Alors, pour que votre vote soit validé, il faut absolument aller sur ça. C'est-à-dire que quand on s'inscrit, il faut ouvrir un compte. Voilà.
S'inscrire.
Il faut s'inscrire et ensuite il faut valider cette inscription sur, la sur sa messagerie.
On reçoit un courriel et il faut cliquer sur un lien pour que ce vote soit validé.
Voilà, parce que sinon, évidemment...
Il y a des spams, il y a des robots, etc. etc.
Voilà,
c'est pour ça.
Et puis votre adresse pourrait être utilisée par d'autres, ça serait trop facile, quoi.
Mon projet pour laplanète.gouv.fr pour voter pour le projet Terre Fertile. Michel Charbeau, merci beaucoup.
Bah, je t'en prie, Roland.
Georges Bureau, merci beaucoup.
Merci, Roland.
Mounia, à très bientôt.
À très bientôt, merci.